science alors ?
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligence which is the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir ?
Ça faisait plusieurs années que les ondes de Radio Campus Clermont n'avaient pas accueilli d'émissions scientifiques. Dommage tout de même pour la radio universitaire d'une ville qui accueille plus de 35 000 étudiants scientifiques et dont l'activité de recherche n'est pas en reste. On pourrait se demander si les scientifiques n'ont pas peur des micros, s'ils préfèrent rester à gribouiller du papier, à scier leur paillasse ou à couvrir de craie des tableaux noirs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait comme moi l'expérience de la curiosité en interrogeant un chercheur sur son centre d'intérêt scientifique. Immanquablement, on voit son œil commencer à briller, ses mains sautiller, on entend avant même qu'il n'ouvre la bouche toute la passion qu'il a pour son métier. Et quand il commence à raconter ses explorations, ses projets, ses découvertes, on a la sensation de découvrir à ses côtés tout un monde de formes, de couleurs, de problématiques, de propositions, d'explorations. Pour ma part, j'ai toujours adoré ce moment où l'on a la sensation, au cours d'une conversation, de découvrir un petit bout de l'immensité des champs d'exploration humaine. Et je crois que Cécile et Claire, les co-animatrices de l'émission, partagent aussi avec moi cette passion. L'émission Science Alors, c'est donc pour nous le moyen de partager avec vous, auditeurs, ces rencontres pleines de passion, de réflexion, d'intrigues scientifiques et de bouleversements de la compréhension. Mais encore plus, notre motivation se place sur les sujets abordés et les disciplines croisées. Car lorsqu'on évoque la science, souvent l'on a à l'esprit chimie, mathématiques ou physique corpusculaire. Cependant, accélérateurs de particules et le théorème de Fermat ne sont pas les seuls terrains de jeu des scientifiques. Pendant une heure chaque mois, Science Alors s'intéressera donc autant aux sciences dures qu'aux sciences humaines et sociales. Histoire, économie, politique, anthropologie, voilà quelques portes d'entrée qui viendront répondre au point de vue de l'informatique, de la biologie, de la thermodynamique. Une fois par mois, le lundi soir, nous explorerons donc une nouvelle question, une nouvelle problématique, à la fois avec le point de vue d'un scientifique des sciences dures et d'un scientifique des sciences humaines. Immanquablement, nous nous poserons la question de l'intérêt pour la société humaine d'explorer ces questions. Et assurément, au fil des mois, la question que nous allons aborder plus particulièrement aujourd'hui reviendra comme le leitmotiv de l'émission. Car en effet, après tout, la recherche, à quoi ça sert ? Voilà une question qui vient à point nommé alors que les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ont débuté en cet été avec une phase de consultation et qui se poursuivra jusqu'à la publication d'un rapport en décembre de cette année. Les premières réflexions qui sont menées dans chacune des universités de France ont déjà émergé quelques propositions innovantes et efficaces par le dialogue et l'écoute. Voilà. Dans les deux universités clermontoises, par exemple, le débat a lieu ces jours-ci et la contribution sera remontée par le rapporteur des assises territoriales d'Auvergne, Claude-Gilles Dussap, ancien directeur de Polytech Clermont-Ferrand. En cette période où la rentabilité à court terme des activités de recherche est mise en avant par les acteurs politiques et économiques, où la question de l'évaluation de la recherche est constamment présentée comme la solution à toutes les difficultés des universités, notre questionnement du jour vient à point nommé. Nous aurons donc aujourd'hui deux invités pour réfléchir et échanger avec nous autour de ces questions, Laurent Baudou, maître de conférence en sciences informatiques et mathématiques, et Claire Margolinas, elle aussi maître de conférence, mais cette fois-ci en didactique des mathématiques et sciences de l'éducation. Pour alimenter cette discussion, nous sommes allés tendre le micro à des passants, des hommes politiques, des scientifiques. Chacun avec leur point de vue, ils viendront illustrer la diversité des idées sur la question. Et pour cette première émission, nous allons inaugurer quelques-unes des chroniques qui ponctueront l'année. Ne manquez pas l'énigme mathématique en début d'émission, le billet humoristique où vous apprendrez aujourd'hui pourquoi l'humain ne peut pas encore voler à la force de ses bras. Et enfin, pour conclure l'émission, l'actualité scientifique de la région avec tous les rendez-vous incontournables du mois à venir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter le point de vue du professeur Jean-Louis Quatrieux, chercheur du LTSI, le Laboratoire du Traitement du Signal et de l'Image de Rennes, qui est écrivain et qui a récemment publié « La vie à chercher ». Son propos illustre l'idée de pluridisciplinarité qui sera évoquée pendant toute l'année dans l'émission « Science alors ».
Dans mon livre, je parle souvent pour les jeunes chercheurs, en leur disant « passer les frontières ». Passer les frontières, c'est aussi être capable d'aller voir ce qui se fait en mathématiques, ce qui se fait en physique, en biologie. Alors, biologie est arrivée beaucoup plus tard pour moi, donc c'était un chemin beaucoup plus difficile à reprendre.
tout à donner. T'as fait de l'effet, hein. Lèche maintenant. Lèche, c'est un ordre. Non, fais attention.
Sur Radio Campus 93.3 dans l'émission Science Alors, c'est Raphaël qui est aux manettes et à l'animation c'est JM, Claire et Cécile. Alors on vient d'écouter Sporto Cantes avec la chanson Lee. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Alors Claire, tu vas nous faire la première chronique des énigmes mathématiques.
Tout à fait, avec aujourd'hui une énigme mathématique sur les boules de billard et les balances à plateau. Donc nous avons 9 boules de billard, toutes identiques, et une parmi celles-ci est plus lourde que les autres. Alors l'enjeu est de trouver quelle est la boule la plus lourde avec seulement 2 pesées. Donc c'est une balance à plateau, donc il y a un côté et un autre. Donc je vous laisse réfléchir pendant l'émission, n'hésitez pas à nous appeler et vous aurez peut-être la chance de gagner un article dédicacé par nos invités.
Nos invités qui d'ailleurs prennent des notes de façon très studieuse pour essayer eux-mêmes d'y répondre. Donc, si l'un de vous gagne, eh bien, il remporte l'article dédicacé de l'autre invité.
C'est important la recherche puisque ça permet de découvrir, voilà, donc des nouveautés qu'on n'imaginait pas qu'on allait découvrir, voilà, ou du moins on avait des pistes et finalement ça permet de confirmer des pistes que l'on avait éventuellement déjà un petit peu explorées.
C'est pour faire des nouvelles découvertes pour la construction, je veux dire plutôt le développement, que ce soit industriel ou surtout à tous les niveaux, culturel, sur la santé, oui.
D'accord. Et par exemple la recherche en histoire ou en littérature.
Recherche. Ah, je ne sais pas ce que ça existe, la recherche en histoire ou en littérature.
Et pourtant.
Ah oui, je ne saurais pas. Mais qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau en littérature, par exemple, puisqu'on a tout.
Ça fait progresser l'avancée des connaissances et des sciences. Et grâce à ça, on peut découvrir des nouveaux trucs, des nouvelles choses qui pourront servir après pour...
Ça peut servir à guérir aussi, à guérir des maladies ou à faire avancer le monde et servir à aider des personnes les plus démunies ou même à côté, servir à tout le monde et c'est vachement important.
Et du coup, la recherche dans des matières comme les maths, comme l'histoire
L'histoire, je pense que la recherche c'est vachement important parce que c'est notre passé et donc avoir une connaissance sur notre passé, ça nous appartient, c'est notre histoire et c'est vachement important de savoir ce que les gens qui étaient avant nous ont fait et c'est vachement important. Puis c'est la culture et c'est intéressant pour tout le monde et après dans les maths, ça permet nous de faire des prépas à côté parce que si les gens avant n'avaient pas cherché, on n'aurait pas pu apprendre tout ce qu'on apprend et puis même ça permet de créer de nouvelles technologies après et c'est vachement important quoi.
Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28. Je te l'ai dit, non?
Ah bon? Mais une thèse sur quoi?
Sur rien.
Ah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça.
Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans.
Ah non, Odile, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça? Bon, alors vas-y, c'est quoi?
Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru.
Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça?
Non.
Au lac de?
Paladru!
Mais, excuse-moi, mais Il y a des gens que ça intéresse, ce...
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors?
Pour faire parler les cons.
Donc, c'était l'extrait du film d'Alain René, On connaît la chanson. Donc, vous venez d'écouter le micro-trottoir réalisé par Claire. Donc, Claire, tu es allée voir des gens dans la rue et tu leur as posé la question...
À quoi ça sert la recherche?
Bien, alors nous allons en discuter avec nos deux invités, donc Laurent Baudou, bonsoir.
Bonsoir.
Donc Laurent, toi tu es maître de conférences en mathématiques et en informatique à l'université Blaise Pascal, rattaché au laboratoire Limos. Et Claire Margolinas, bonsoir Claire.
Bonsoir.
Alors Claire, tu es maître de conférences donc en didactique des mathématiques, habilitée à diriger des recherches en sciences de l'éducation, donc à l'université Blaise Pascal aussi, rattachée au laboratoire ACTE. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous, l'un de vous se reconnaît ou est-ce que vous vous reconnaissez dans ce dernier extrait, dans cet extrait de film? Est-ce que ça vous est déjà arrivé finalement d'essayer d'éluder la question du sujet de votre thèse parce que vous pensez que les gens ne comprendraient pas ou qu'ils vous diraient que c'est complètement inutile?
Bah, tout à fait. On va dire que c'est même pas qu'on pense qu'ils vont nous penser que c'est inutile, c'est qu'ils le pensent exactement. La plupart du temps, mon sujet de thèse était un petit peu compliqué, un peu ésotérique. C'est plongement de graphes subdivisés connexes dans des hypercubes ou quelque chose comme ça. Donc souvent, le seul mot qu'ils retiennent, c'est hypercube. Ça les fait un peu rêver. Mais effectivement, le sens premier de ce que j'ai fait disparaît complètement si on essaie juste de le résumer dans le sujet de la thèse. Donc à partir de là, c'est sûr qu'on est tous confrontés au mur de « mais qu'est-ce que tu fais comme sujet de thèse ?» Et puis les gens attendent aussi un petit peu... Le chevalier de l'an 1000 du lac de Paladru, de toute façon. Donc, ça leur fait quand même un peu plaisir, je crois. Mais bon, est-ce que je continue en parlant de mon sujet de thèse?
Alors, je t'en prie. Donc, ce sujet de thèse, si tu essayes de l'expliquer à des gens qui sont profanes, comme moi, par exemple.
Alors, des profanes, ma chère Cécile. Donc, moi, je me suis plutôt intéressé, et je continue de m'intéresser, à ce qu'on appelle la théorie des graphes. Donc, c'est une branche des mathématiques dans certains pays anglo-saxons, de l'informatique en France. Les graphes, c'est un objet mathématique, une espèce de structure qui permet de modéliser toute une foultitude de choses, comme les réseaux routiers, les réseaux de transport en général, ou les réseaux sociaux. Il y a le fameux graphe de Facebook qui est connu par pas mal de gens, où il y a des études sur qu'est-ce qu'on peut dire sur les interactions sociales entre les gens, ou plus communément les réseaux informatiques. Et donc tous ces réseaux sont modélisés par cette structure mathématique. Et nous, les questions qu'on peut se poser, c'est... Par exemple, comment communiquer dans un réseau de façon efficace? Alors, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire de façon efficace? Est-ce que je veux envoyer beaucoup d'informations à tel endroit? Est-ce que je veux envoyer l'information le plus rapidement possible à tel endroit? Et donc, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Ou qu'est-ce que c'est qu'un réseau bien rangé? Qu'est-ce que c'est qu'un réseau proprement représenté? À savoir, si jamais je veux représenter un réseau routier, j'aimerais qu'en regardant ma carte, ça ressemble à quelque chose. Donc, on a toutes ces questions-là qui se posent. Oui.
Et du coup, tu bosses avec la DDE, quoi. Tu vas aller voir et...
Eh ben alors, pas moi personnellement, d'accord. Mais certains de mes professeurs, quand j'étais durant mes études, ont effectivement été contactés par la DDE de je ne sais plus quel département pour optimiser le fauchage des bords de route pendant l'été. Donc, est-ce que quand je prends mon camion, est-ce que je dois passer par telle route ou par telle route? C'est le genre de question qu'on est amené à traiter d'un point de vue strictement utile. C'est le versant utile de notre recherche.
Et alors toi, si ta recherche elle est pas utile, comme ou si elle est utile mais autrement, ça veut dire que tu réfléchis pas à des questions qui viennent de la vie quotidienne?
Pas vraiment, non. Moi, il y a toute une frange dans la population des mathématiciens qui cherche le résultat esthétiquement correct. Donc, on est plus attiré par une question qu'on trouve jolie. Par exemple, pendant ma thèse, j'ai étudié la représentation des graphes sur des bouteilles de Klein. Des bouteilles de Klein, c'est des objets qu'on peut pas représenter, qui n'existent pas en trois dimensions. Mmh. Et donc, on essaye de représenter des objets qui n'existent pas dans la réalité sur des objets qui n'existent pas dans la réalité. Et donc, c'est vrai qu'à première vue, on peut pas se dire, tiens, ça va m'être utile demain. Ça vient pas du, c'est pas ma mère qui m'a demandé d'étudier ça.
D'accord.
Mais ça reste quelque chose de suffisamment intéressant pour qu'on s'y intéresse.
Alors toi Claire, en fait tu as aussi fait des études de mathématiques et tu es passée à la didactique des mathématiques. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la didactique des mathématiques et qu'est-ce qui t'a attirée?
Oui, ben bonsoir. Effectivement, didactique des mathématiques, ben moi c'est presque le contraire de ce que disait Laurent, c'est-à-dire que les gens pensent toujours que didactique des mathématiques, ben c'est clair, l'utilité, ça doit être pour améliorer l'enseignement des maths. Et comme souvent ils ont eu un passé un peu douloureux avec l'enseignement des mathématiques, ils trouvent qu'il y aurait vraiment, vraiment des choses à faire là-dedans. Et du coup, ben quelque part, je suis presque obligée d'expliquer le contraire de Laurent, c'est-à-dire pourquoi. Pourquoi est-ce que, avant de se demander comment est-ce qu'on pourrait améliorer, il faudrait déjà se demander qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'enseigner des mathématiques et comment est-ce qu'on pourrait en apprendre plus et en savoir plus. Voilà. Donc, finalement, quand on veut essayer d'améliorer quelque chose, est-ce qu'on peut le faire directement comme ça ? Tout le monde a des idées sur comment est-ce qu'on pourrait enseigner mieux, surtout les mathématiques. Et finalement, ça ne fait pas forcément beaucoup avancer le Schmilblick, ce qui fait que faire de la recherche est toujours une prise de recul, quoi. Alors après, pourquoi moi j'ai fait ça ? C'est pas très très compliqué. Moi, je suis nettement la plus vieille autour de cette table. Et donc, j'étais en sixième dans les années 70, au moment où il y a eu la réforme des maths modernes. Et en rentrant en sixième, il y avait le nouveau programme, celui de maths modernes. Puis après, Et après, en cinquième, toujours le nouveau programme, etc. Donc, en fait, c'était nouveau jusque quand j'ai passé mon bac. Et moi, j'ai eu des profs qui pleuraient parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils enseignaient. Alors, moi, je comprenais. Donc, j'étais au fond de la classe, j'expliquais aux autres. Et j'ai trouvé qu'il y avait un désespoir terrible de ces pauvres professeurs. Et donc, moi, j'ai voulu faire des maths pour travailler en didactique des mathématiques, alors que je ne savais même pas qu'il y avait un domaine qui s'appelait déjà comme ça. Je croyais que j'allais être une pionnière. Et non, en fait, heureusement d'ailleurs, je n'étais pas toute seule.
Et du coup, est-ce que ça passe par de l'expérimentation? C'est-à-dire, on prend des cobayes élèves et puis on les met devant une nouvelle manière de présenter les choses et puis à la fin, on regarde s'ils ont compris ou pas?
Eh bien, ça, c'est un peu... Alors là, c'est le niveau 2. Après avoir dit, tu fais des recherches en didactique des maths parce que ça va améliorer, après, on pense que, il n'y a qu'à essayer des espèces de nouvelles méthodes. Alors, oui, il y a peut-être des gens qui font ça, mais en même temps, déjà, essayer d'observer ce que font les professeurs et quelles sont leurs contraintes réelles. Qu'est-ce qui fait qu'ils font quelque chose d'une manière et pas d'une autre? Moi, ça me paraît très important. Parce que ce qu'on sait justement depuis les maths modernes, c'est qu'avec la meilleure intention du monde, et à l'époque les meilleurs mathématiciens, c'était pas n'importe qui les gens qui ont fait les maths modernes, mais on peut produire des grosses catastrophes socialement. Donc on est plutôt, par exemple moi, je fais pas tellement des recherches dans lesquelles j'essaye de voir s'il y a des méthodes qui, j'essaye plutôt de comprendre... quels sont les tout petits gestes, les tout petites choses qui font que le prof arrive à, par exemple, prendre en compte l'ensemble des élèves ou pas? Comment est-ce qu'il arrive à réfléchir aux mathématiques d'une façon qui lui permet de les enseigner de façon intéressante déjà? Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a des tas d'idées qui traînent, qui sont intéressantes, auxquelles il a peut-être accès, mais qui finalement n'ont aucun impact dans l'enseignement? Parce que des idées, il y en a beaucoup. Mais après, dans le réel de la classe, on s'aperçoit que ça passe pas tellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Pourquoi les gens sont de bonne volonté, tout ça, et puis que finalement... ça bouge pas trop.
D'accord. Alors au niveau des méthodes de travail, ça veut dire que quand on est chercheur en didactique des maths, on passe son temps dans les salles de cours, tu vas dans les salles de classe, tu observes, tu filmes, tu prends des notes, comment ça se passe?
Ah bah oui, alors là par contre, bingo, c'est tout à fait ça, Cécile, c'est-à-dire que moi je vais beaucoup dans les classes. Et à l'heure actuelle, en particulier en maternelle, vous pouvez vous dire, mais il y a des maths en maternelle. Oui, il y a des maths en maternelle. Et en plus, c'est un moment très, très important pour la construction, par exemple, du nombre et toutes sortes de choses. Et donc, moi, oui, je passe beaucoup de temps dans les classes et très souvent dans des classes dans lesquelles je demande aux professeurs d'oublier le plus possible que je suis là. Alors évidemment, ils n'oublient jamais complètement. Mais quand on y va assez souvent, ils finissent par oublier et nous, on finit par comprendre ce qu'on peut appeler pompeusement des déterminants de l'action, par exemple, du professeur en mathématiques. Moi, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe en général.
D'accord. On va passer une petite coupure musicale et puis on reprend ensuite. Merci.
Marcel n'est pas ce qu'on appelle un intellectuel. Marcel, quand je l'appelle, moi je l'appelle Marcel. Il ne répond pas, mais il approche de sa démarche gauche. Et l'on peut voir dans son regard comme une lueur d'intelligence. Il sait de quoi j'ai envie. Il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vie. Gourou corps d'athlète, je pose ma main sur son gros bras que marre. Rive-t-il ça fait, il me susurre le curieux refrain. Tiens, voilà du boudin. Et puis en roulant les airs, oh le grand Nico, il me dit je vais te faire ce fameux coup du légionnaire et du sable chaud. Dans la légion étrangère, j'aime son heureux caractère, toutes ses affaires, c'est pour ça que je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour qu'on prend qui peut. Que mon Marcel, ça n'est qu'un manuel. Elles connaissent rien, y'a pas que ses mains qui font des choses bien. Puis d'ailleurs, moi, j'ai pas le temps de savoir qui est Marcel. Quand mon Marcel, il me harcèle. Marcel me harcèle, Marcel me harcèle. C'est comme s'il avait deux vies. N'est-ce dont j'ai envie? Je dirais même qu'il a six vies. Gourmand appétit que je jurais parfois qu'il a dix vies. Qu'il a divine, m'en fait tout ce qu'il faut faire pour mon compte. Oui, mon contentement, il sait de quoi j'ai envie. Il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vie. Gourmand corps d'athlète, j'aime son heureux caractère, toutes ses affaires, et c'est pour ça que je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour. Comprend qui peut ou comprend qui veut.
Guillaume Mazot, vous êtes historien de la Révolution française. Alors, si je vous pose la question formulée ainsi, la recherche, pour vous, à quoi ça sert?
Alors, directement, je ne sais pas. Et je crois que c'est justement pour ça que ça vaut le coup de continuer à investir dans la recherche, notamment en sciences humaines, vers une recherche qui n'est pas forcément l'objet d'applications directes, d'innovations technologiques ou d'inventions, etc. Utilitaire. En même temps, la recherche... Malgré tout, ça doit servir en partie à quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche sans vulgarisation, sans transmission, sans diffusion, sans partage. Par exemple, nous, historiens, on imagine parfois mal notre métier, coincé dans des laboratoires ou dans des archives, sans pouvoir aller raconter l'histoire, la partager au plus grand nombre. Et ça veut dire parfois participer à la fête de l'humain, pour dire qu'est-ce que c'est la révolution. Ça veut dire... accepter de passer à la télé, ça veut dire répondre à des interviews de journalistes, etc. Donc à mon avis, cette recherche, elle sert à ça. Elle doit avoir à un moment donné, malgré tout, une petite incidence sur le débat politique et civique.
Et est-ce que cette question, elle a pesé dans le choix de votre objet d'étude? Est-ce que vous vous êtes dit, faire des recherches sur la Révolution française, ça peut être un réservoir de ressources pour mes contemporains?
Alors, de manière aussi directe, pas complètement, parce que quand on fait de l'histoire, le gros danger, c'est d'essayer de plaquer des questions actuelles sur le passé, et donc on court le danger de l'anachronisme. Mais évidemment, a fortiori, quand on est historien de la Révolution française, qui est tout sauf anodin... évidemment, on répond malgré tout à des questions qui sont au bout d'un moment forcément un peu politiques. Et moi, par exemple, j'ai choisi de commencer par étudier la violence, en partie la contre-révolution aussi, parce que j'avais pas trop envie de les laisser à des historiens qui faisaient l'apologie de la contre-révolution. Et je trouvais que c'était des terrains qui étaient un petit peu délaissés par les historiens universitaires et républicains, et qui était finalement laissé en friche. Donc oui, évidemment, à la base, il y avait quand même un petit projet civique.
C'était l'historien Guillaume Mazot, donc, qui est historien à l'Institut d'Histoire de la Révolution française, spécialiste de la terreur notamment, et qui vient de publier avec d'autres historiens un petit livre aux éditions Agone. Excellente édition, Pourquoi faire la Révolution. Donc Guillaume Mazot, je l'ai rencontré à la Fête de l'Humanité le week-end dernier, donc c'est pour ça que l'acoustique n'est pas excellente. En lui posant cette question. Alors toi, Jean-Marie, tu as aussi posé la même question donc à Jean-Marc Laveste.
C'est vrai, je suis allé tendre mon micro à Jean-Marc Laveste, qui est directeur de l'UT de Clermont, sur la même question en fait, la recherche à quoi ça sert, et sur le point de vue pour lui, bien, de l'enseignement. Alors juste pour replacer, Jean-Marc Laveste donc est directeur de l'UT, il vient de recevoir ce 17 septembre, il vient d'être fait chevalier de l'Ordre National du Mérite par Laurent Wauquiez au Puy-en-Velay. Bon, c'est anecdotique, on écoute tout de suite l'extrait.
Alors, dans un institut de technologie, la recherche, je la vois de façon un petit peu particulière, parce que la technologie est pour moi un questionneur de recherche, beaucoup plus qu'avant. Si on prend par exemple les problématiques de capacité de calcul, la technologie, à travers toutes les capacités de calcul, que ce soit au niveau de la physique corpusculaire, que ce soit au niveau du séquençage de l'ADN, ou que ce soit au niveau de complexité, complexité de modèles vient permettre de rebouger de nouveaux questionnements sur la recherche plus fondamentale, et cette technologie vient nourrir la recherche fondamentale et réciproquement. Donc pour moi c'est un élément fort de notre IUT. Et j'attache une vraie importance à ce que les enseignants-chercheurs qui soient recrutés aient devant eux les outils nécessaires, les laboratoires nécessaires, les structures nécessaires, de manière à faire cette recherche de très bon niveau et donc, in fine, la transmettre à nos étudiants.
L'idée, c'est que la recherche alimente et fasse évoluer l'enseignement pour l'adapter au quotidien.
La recherche le fera forcément bouger sur une vision à moyen terme, mais c'est surtout la capacité qu'a l'enseignant-chercheur, au moment où il formule son cours, d'être lui-même sollicité par des questionnements qui sont des questionnements que lui ont produit ses structures de recherche et qui derrière vont faire forcément bouger sa pédagogie. Alors on va pas changer radicalement la façon de faire un cours d'électricité en premier cycle, mais un enseignant-chercheur qui va travailler en imagerie, qui va avoir la problématique des calculs, des problèmes d'optimisation, des problèmes de modélisation, sera toujours sans cesse influé et pourra toujours illustrer l'intérêt de telle ou telle chose, l'intérêt de tel ou tel nouvel outil, l'intérêt de telle ou telle nouvelle méthode au regard d'objectifs scientifiques qui sont importants.
D'accord, c'est activer la curiosité à la fois de l'enseignant et puis des étudiants aussi alors.
Activer la curiosité, mais activer aussi le corpus de connaissances. La curiosité, c'est vraiment le niveau intrinsèque de nos enseignants. Si on regarde les problématiques de recherche qu'on traitait ici à Clermont il y a 30 ans et celles qu'on traite maintenant, oui, je peux dire que le niveau n'est pas le même. Le niveau a largement augmenté.
Alors on vient à l'antenne, on vient d'écouter un deuxième extrait. L'idée c'est toujours de se poser la question de la vulgarisation, la transmission des savoirs scientifiques. Alors est-ce que vous aussi, chers invités, vous avez été confrontés à ces questions-là et comment vous... Ça vous semble évident cette transmission ?
Alors je prends la parole. Bien évidemment c'est une des missions de l'enseignant-chercheur, c'est formulé comme ça dans les textes de toute façon et c'est naturel. Une fois que, bah, d'une certaine manière, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que fonctionnaire de la République, on est plus ou moins les employés du peuple. Et donc c'est naturel d'avoir à leur rendre ce qu'ils nous donnent et de communiquer sur nos travaux. Donc cette communication sur nos travaux, elle est obligatoire vis-à-vis du public. Elle est obligatoire aussi vis-à-vis des chercheurs qui sont avec nous, puisque de toute façon, c'est la meilleure façon d'avancer. Et donc cette communication, elle se fait à plusieurs titres, elle se fait dans le cadre de nos enseignements, en effet, comme le mentionnait Jean-Marc Clavet. Et elle se fait effectivement vis-à-vis du grand public, à travers des manifestations comme la Fête de la Science, comme des associations qui font des interventions plus ciblées, des associations d'universitaires qui font des interventions ciblées dans les écoles publiques de premier cycle, etc., comme... Matangine ou Matamodelé ou le fil à la patte, des choses de cet ordre-là. Et effectivement, on est toujours confronté à cette vulgarisation qui est jamais évidente parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse ou en tout cas on doit partir de zéro et essayer de mettre du sens dessus. Mais bien entendu, elle fait partie de nos missions premières et elle n'est pas vraiment sollicité dans les faits par les pouvoirs publics.
Mais alors on parle de vulgariser donc la science en général, mais si je prends ton exemple, tes travaux à toi ou toi Claire, est-ce que toi t'as déjà est-ce que vous avez déjà l'un ou l'autre travaillé à vulgariser vos travaux, les vôtres auprès du grand public?
Oui, en particulier mes travaux sur la théorie des graphes en quelque sorte, puisque donc durant mes études j'ai participé à l'association Matamodelé, donc qui vise à vulgariser des travaux de recherche actuels auprès d'un public du plus jeune âge, c'est-à-dire en collège, en école primaire, des choses comme ça. Et on prend des questions qui sont encore ouvertes, c'est-à-dire qui font l'objet de travaux de recherche, à savoir des jeux combinatoires, des jeux qui sont facilement accessibles, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir un background mathématique hallucinant pour le comprendre. Mm-hmm. Et on le donne à manger à des jeunes élèves qui vont à tâtons trouver des solutions, et ça a donné lieu à certaines choses intéressantes, à savoir il y a une élève qui a fait une nouvelle méthode qui a donné lieu à une publication alors qu'elle était au collège. Donc elle a déjà une publication dans un journal scientifique.
Ce qui est honnête.
Ce qui est très honnête à ça.
Claire Margolinas.
Oui, du coup, moi, je vais peut-être reprendre sur la vulgarisation et la transmission des savoirs scientifiques, parce qu'il me semble que là, on voit bien une différence dans ce que vient de dire Laurent, avec ce que je vais pouvoir dire moi, entre ce qu'on appelle parfois sciences dures et sciences humaines, voire même sciences molles. Enfin, bon, c'est moins joli quand même. Parce que, disons que pour moi, bien sûr, il y a les étudiants, bah, comme Laurent, hein, je suis enseignant-chercheur, donc forcément, j'ai des étudiants. Il se trouve que ces étudiants se situent comme étant des futurs professeurs. Donc déjà, ça les... ou bien c'est des professeurs. Je fais beaucoup aussi de formation de gens qui sont déjà en poste. Donc ça les place par rapport à mon champ de recherche d'une façon un peu particulière. On voit que moi, j'enseigne pas à des graphes, pour reprendre par rapport à Laurent. C'est différent, puisque forcément, sciences humaines, bah, les gens à qui on essaye de transmettre, c'est aussi des humains. Donc nous, le travail qu'on fait, d'une certaine manière, il a plus de chances, et moi je vais même dire plus de risques, à la limite, d'impacter. Et si je dis risque, c'est parce que une des difficultés qu'on a, c'est de se demander, moi je m'interroge beaucoup à partir de travaux que je peux publier dans la communauté scientifique, et là j'ai pas trop peur de les publier parce que je sais que les gens qui vont les lire vont les prendre avec les pincettes qu'il faut, et essayer de comprendre ce qu'il y a vraiment dedans. Et moi, je m'interroge vraiment sur le fait de ne pas faire de mal. C'est-à-dire, c'est facile de par exemple, culpabiliser les professeurs en leur disant, bah oui, mais en même temps que vous essayez de gérer la classe, les petits qui courent partout, etc., mais les mathématiques là-dedans, franchement, c'est pas très bon, etc. Donc, on va aboutir à une culpabilisation, et on culpabilise suffisamment les profs comme ça. Je pense qu'on n'a pas besoin, nous, chercheurs, d'en rajouter. Et du coup, je pense que il y a vraiment un deuxième travail ou un xième travail qui est de se dire, par rapport à ce travail que moi je fais sur la didactique des mathématiques, qu'est-ce que je peux vulgariser et comment? Et c'est une question que je me pose souvent. Et pour vous donner une idée, des travaux que je fais depuis une dizaine d'années avec quelqu'un qui est en didactique du français, qui s'appelle Marceline Lapara, et ben c'est seulement depuis à peu près cette année qu'on commence à publier des résultats en direction plutôt de la vulgarisation et des professeurs. Parce qu'avant, on pensait que ce n'était pas le moment.
C'est de l'autocensure ?
Absolument, et c'est une autocensure très très importante. Il y a beaucoup de gens qui déversent auprès des professeurs et dans le système d'enseignement toutes sortes d'idées complètement bidons et qui font que du mal. Et je pense que c'est important que justement les gens qui essayent de produire des connaissances réfléchissent un petit peu avant de le faire. Je pense qu'y compris en économie, parfois on pourrait réfléchir un peu, non?
Oui, mais justement, je voulais vous poser une question à tous les deux, peut-être sur les lieux ou sur les canaux en fait de diffusion, les lieux qui mettent en contact, en relation le public, ou alors les enseignants du primaire, du secondaire et les chercheurs. J'ai l'impression que, par exemple, du côté des enseignants du secondaire, il y a quand même une très forte demande dans la discipline qu'ils enseignent, en didactique, en sciences de l'éducation. Il y a une recherche qui m'apparaît aussi très dynamique, et j'ai l'impression que là, il y a une sorte de, il y a une sorte d'écart. J'ai pas l'impression que l'université soit franchement un lieu de vulgarisation et de diffusion des connaissances. Toi, Laurent, tu as parlé de certaines associations. Est-ce que c'est laissé à l'initiative comme ça des initiatives un peu plurielles?
Oui, complètement. C'est même un des biais de cette situation, c'est qu'effectivement, donc la vulgarisation fait partie des missions de l'enseignant-chercheur, et à côté de ça, elle est vécue par la plupart des enseignants-chercheurs comme une charge en plus qui n'est pas... C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on... textuellement, on est confronté à passer une moitié de notre temps à enseigner, une moitié de notre temps à faire de la recherche, et cette partie vulgarisation, elle est quantifiée nulle part, et donc les chercheurs ont tendance à la mettre de côté parce qu'effectivement, elle... c'est pas qu'elle est pas rémunérée ou d'une certaine manière, mais elle leur fait perdre du temps sur la recherche, elle leur fait perdre du temps sur l'enseignement, et c'est vécu comme ça. C'est pas valorisé par le système université. Et donc à ce titre-là, c'est plus difficile pour eux.
Oui, tout à fait, puisque même les directeurs de nos laboratoires pourraient considérer que quand on s'engage dans la vulgarisation, on fait pas notre boulot. Donc, alors évidemment, on n'est pas dans un travail où tout est absolument quantifié à la minute, mais au final, quand on regarde l'évaluation des laboratoires de recherche ou des enseignants-chercheurs, c'est toujours dans des revues reconnues, etc. Et quand on publie, par exemple, un livre plutôt de vulgarisation, ce qui peut arriver, normalement, on le ferait sur notre temps en plus, et on met pas beaucoup de temps en plus, en fait. Mais je pense que c'est une dérive dans l'institution, en fait.
Alors, je vous propose sur cette question d'entendre le point de vue d'Olivier Besancenot. Donc, Olivier Besancenot, ancien porte-parole du NPA, que j'ai rencontré donc toujours ce week-end à la Fête de l'Humanité.
Je pense que la recherche, c'est un domaine... C'est un domaine essentiel, un domaine d'urgence sociale, puisqu'on a besoin pour essayer d'imaginer un nouveau mode de consommation et de production et pas subir la crise, ne serait-ce que la crise écologique qu'on est en train de connaître actuellement, de développer des domaines de recherche essentiels. Je pense qu'un seul domaine, par exemple, mais il y en a plein d'autres dont on pourrait discuter, mais c'est le domaine de la transition énergétique, par exemple, où on a besoin d'inventer. Et pour moi, la recherche, non seulement c'est un domaine essentiel, c'est un domaine urgent, mais c'est un domaine qui doit échapper à la domination du capital, à la domination de la loi marchande, puisque c'est typiquement un domaine où on doit pouvoir trouver quelque chose dont on ne sait pas forcément qu'on va trouver à la clé. Donc il faut se donner des possibilités de recherche sans forcément aboutir derrière. Donc ça veut dire qu'en termes d'investissement, il faut savoir et assumer éventuellement à perte. J'allais dire, quitte à provoquer un peu le langage capitaliste, puisque si j'ai bien compris, l'électricité à l'époque, on l'a trouvée précisément alors qu'à la base, on ne s'apprêtait pas à découvrir ça. Donc il faut une disponibilité totale, donc il faut absolument sortir des critères marchands. C'est pour ça que pour nous, la recherche, ça doit être dans le domaine d'un service public, d'un domaine public, protégé en tant que tel de l'économie capitaliste. La recherche en général, les sciences en général, c'est un domaine qui mérite d'être démocratisé, popularisé et de ne pas évoluer dans un cénacle de spécialistes. Et pour le mettre à niveau, ça veut dire donner des moyens à l'éducation, mais aussi plus généralement, puisque je pense qu'on doit pouvoir avoir accès à la recherche, aux sciences, au cours de sa vie tout entière, même quand on a quitté les bancs de l'école, même quand on a quitté les bancs de l'université. Et ça passe par énormément de moyens. Donc là, c'est à l'inverse de tout ce qui est fait actuellement. Malheureusement, ce qui a été fait par la droite, j'ai peur que sous la gauche, dans les économies que le gouvernement cherche à faire, c'est aussi là-dedans qu'on va taper, et c'est tout à fait regrettable.
Et puis maintenant, je vous propose d'entendre le point de vue d'André Chassaigne. Alors là, c'est vraiment le point de vue du législateur, puisque vous savez que André Chassaigne, est donc député du Puy-de-Dôme et président du groupe Gauche démocrate et républicaine.
Je crois que toute recherche, que ce soit en sciences sociales ou les sciences humaines, a un rôle à jouer dans la société. Au niveau de recherche qui touche à la société, par exemple à l'organisation du travail, il est bien évident que ça a des conséquences immenses. Je vais donner un exemple précis. Vous avez actuellement des scientifiques qui, par exemple, vont se mettre à la solde de grandes entreprises de façon à ce que le recrutement des salariés s'appuie sur des critères génétiques pour que le travail des salariés soit rentable et pour que le salarié, par exemple, ait le moins d'accidents du travail, le moins de maladies professionnelles. C'est terrible. Mais là, dans ce cas-là, c'est une recherche scientifique qui est dévoyée pour répondre à des intérêts privés. Mais à côté de ça, il faut bien qu'il y ait une véritable recherche sur des faits de société et qui permette de démonter ce mécano et de faire en sorte que l'on évolue, parce que l'objectif de la recherche, c'est le progrès de l'humain. Ça pose aussi la question, par rapport au progrès, de l'utilité mécanique de la recherche. Les résultats de la recherche, on en fait ce qu'on en veut. Mais je dirais que le fait de considérer que le progrès aujourd'hui aboutit automatiquement au bonheur de l'humanité, c'est quelque chose qui n'est plus valable. La recherche maintenant et toutes les découvertes scientifiques que l'on peut avoir, je pense aujourd'hui, exigent des validations citoyennes avant d'être mises en œuvre. C'est un élément complètement nouveau qui est apparu peut-être parmi la première fois dans l'éditorial qu'Albert Camus a écrit dans Combat le lendemain d'Hiroshima, où il a posé toute la question du sens de la recherche. Maintenant, on se pose la question, la mort de l'humanité peut être liée à des progrès scientifiques si on ne se pose pas véritablement la question de mettre en œuvre ou pas.
Alors bon, évidemment, on sait que les progrès scientifiques peuvent être utilisés à des fins tout à fait mortifères. Donc, c'est ce que rappelait André Chassaigne. Mais là, il pose quand même une question qui me semble intéressante. C'est la position des chercheurs par rapport au pouvoir. Est-ce que le rôle des chercheurs, c'est d'être des experts, des prescripteurs, de justifier les décisions politiques, d'éclairer le législateur sur toutes ces questions? Claire Margolinas.
Oui, c'est une question très intéressante. Moi, au passage, j'aime beaucoup l'idée de démonter le mécano, comme dit André Chassaigne. Je trouve que ça correspond tout à fait à, en tout cas la façon que j'ai de voir de la recherche. Mais pour revenir à ta question, Cécile, par exemple, dans ma communauté de recherche, la didactique des mathématiques, je dirais que c'est une question qui fait vraiment débat, puisque il y a des gens qui se sont engagés au plus près, par exemple, de certaines réformes de programmes, etc. Et puis d'autres, comme moi, il faut dire, qui pensent que on a besoin d'en savoir beaucoup plus avant de faire des liens trop forts avec l'application directe. Et c'est vrai que parfois il faut du temps, mais 10 ans dans un champ de savoir, c'est rien du tout. Le collègue à côté, sa science, elle a au moins 3000 ans. Donc 10 ans, c'est pas grand chose. Et par exemple, dans des recherches que j'ai pu mener avec des collègues, on a fait avec des sociologues et des didacticiens du français des liens au bout de 10 ans complètement inattendus entre les mathématiques, l'entrée dans l'écrit et tout ça à la maternelle, qui un jour pourront faire une différence en ce qui concerne les différences sociales à l'école. Mais un jour, voilà, ça prend du temps. C'est pas direct.
Alors, Laurent Baudou ?
Oui, donc moi j'aimerais aussi rebondir sur cette notion de c'est pas direct. Et en gros, on nous reproche assez souvent de pas communiquer avec le public. On nous reproche assez souvent d'avoir des recherches qui sont pas adaptées aux attentes du public. Et donc André Chassaigne parlait de la validation citoyenne avant de faire des recherches ou des choses comme ça. Et je tiens à préciser que si jamais on donnait le pouvoir de décider de nos sujets de recherche entièrement au peuple, on verrait assez vite fleurir des études sur l'impact des ondes du téléphone portable et sur le nucléaire et tout le volet fondamental de la recherche, en particulier celle que je mène mais que bien d'autres de mes collègues mènent, aurait vite fait de disparaître. Et j'ai tendance à penser que cette recherche fondamentale, elle est primordiale, que si on regarde de très haut le cours de la vie de l'être humain, on voit que les sociétés qui acceptaient la recherche fondamentale sont aussi celles qui étaient les plus progressistes en termes de statut de l'homme tout court, les plus tolérantes. Et donc je pense que c'est important que ce volet fondamental ne disparaisse pas. Vas-y.
Non mais c'est exactement ça. En fait, je voulais proposer qu'on écoute l'extrait suivant qui justement va dans le sens de ce que tu expliques. Donc c'est Jean-Louis Quatrieux qui décrit un petit peu ce continuum qui existe entre recherche fondamentale et recherche appliquée.
On peut faire de la recherche, je crois, pour la connaissance simplement, hein, pour essayer de découvrir des mécanismes qu'on ne comprend pas, etc. On peut aussi faire de la recherche plus appliquée d'une certaine manière. C'est je crois ce que j'ai fait. Et puis on peut faire aussi de la recherche à travers de l'innovation. Et il n'y a pas de hiérarchie pour moi entre ces trois
points. C'est un continuum en quelque sorte.
Voilà, c'est un continuum. Et peut-être un regret, c'est que en France, on n'a pas toujours pu ou su assurer ce continuum. Ce qui peut expliquer par certains aspects, je pense, les problèmes industriels qu'on a aujourd'hui.
Le grand écart, enfin même hermétique, entre les différentes thématiques, plus théoriques et puis plus appliquées.
Plus théoriques, plus appliquées. Les écarts aussi entre disciplines, qui sont souvent difficiles à franchir, oui, tout à fait.
Bon, ça correspond assez bien à ce que vous disiez chacun d'entre vous. Finalement, tout est utile. Et puis, si on laissait le peuple ou le pouvoir guider nos thématiques de recherche, enfin vos thématiques de recherche, eh bien, on se retrouverait finalement à faire que de l'appliquer.
En fait, je pense que André Chassaigne parlait plutôt de l'utilisation des recherches, pas la définition des programmes. Je ferme la parenthèse.
Donc ça correspond assez bien à ton idée, ouais, de celle que tu proposais.
Oui, c'est-à-dire que de toute façon, on peut pas. C'est un aller-retour permanent entre le monde de la recherche, le public, et de savoir mettre les barrières où il faut pour que nous puissions aussi déterminer nos sujets de recherche au bon vouloir de nos idées sérieuses ou pas trop sérieuses.
Oui, pour aller du coup dans l'autre sens de ce que je disais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Louis Quatrier, c'est-à-dire il y a du fondamental, de l'appliqué, de l'innovation, finalement il y a un continuum et il n'y a pas de hiérarchie. Alors, dans certains domaines, dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est une vraie révolution, parce qu'on sent bien que entre ça, il y a des domaines dans lesquels dire qu'on est fondamental ou appliqué, ça veut quand même pas dire qu'on joue dans la même cour, quoi. Et c'est vrai qu'en général, en plus, ça boucle. C'est-à-dire que, par exemple, moi je connais des gens qui font des innovations dans le domaine, par exemple, de l'enseignement des mathématiques, qui peuvent être tout à fait intéressantes et qui finalement vont réinterroger la recherche elle-même en termes de fondamental ou d'appliqué. Autrement dit, il n'y a pas de, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une séparation totale, ça serait une mauvaise chose. Et en même temps, ce qui est difficile à l'heure actuelle, c'est ce dont parlait Laurent tout à l'heure sur les évaluations, etc. On ne va pas bien sûr rentrer dans des détails techniques, mais la structuration des revues et des choses qui font qu'on est évalué fait que y en a énormément qui sont dans des domaines qui sont souvent très très pointus et on peut pas tout connaître. Et finalement, de fait, je crois que dans tous les domaines, il y a cette espèce de stérilisation des différentes recherches par le fait qu'on ne connaît pas suffisamment. J'étais dans un colloque sociologie didactique la semaine dernière et dans lequel quelqu'un disait que ça faisait partie des choses qui, pour les sociologues, devenaient un véritable problème, que par exemple les sociologues connaissent plus l'anthropologie ou connaissent plus l'histoire et connaissent plus que leur tout petit domaine. Alors je parle des copains à côté, les sociologues c'est plus facile pour moi, mais évidemment c'est pareil dans tous les domaines des sciences humaines.
Et justement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec les critères d'évaluation qui sont ce qu'ils sont et qui conduisent effectivement à une fragmentation du champ de la recherche, on aboutisse finalement à une normalisation des domaines de recherche qui finalement vont être sollicités par rapport à l'anticipation d'une évaluation positive? Est-ce que vous n'avez pas peur que justement ça bride un peu le choix des sujets de recherche?
Bah, effectivement, c'est le risque et je pense qu'il faut lutter contre. Alors, Laurent et moi, on est dans des domaines je peux pas parler pour Laurent, il confirmera, mais où on n'a pas besoin d'énormément d'argent. C'est pas, y a pas des expérimentations fantastiques avec le CERN, etc., etc. Et du coup, on est dans des domaines dans lesquels, par rapport à ça, on n'est pas totalement lié aux décideurs, puisque ce qu'ils lient, c'est l'argent, hein, comme partout, c'est pas compliqué. Et finalement, dans lesquels, si on veut faire des recherches qui nous semblent utiles et dont on pense qu'à terme, elles pourront faire avancer les choses qui finalement nous intéresse. Moi, c'est vrai que améliorer l'enseignement des maths, je trouverais ça formidable. Hein. Bien sûr que j'aurais bien envie. On arrive encore à le faire. C'est sûr qu'il y a des domaines où ils sont beaucoup plus liés aux politiques parce que tout simplement, ils ont besoin d'énormément de moyens. Mais peut-être que Laurent me dira qu'il a besoin de beaucoup de moyens, c'est possible.
Je confirme les dires de Claire.
Bien. Alors maintenant, on va passer à la rubrique légère qui est représentée par Jean-Marie, ici présent.
C'est vrai. Alors, tu parles de rubrique légère, ça tombe assez bien parce que je vais vous parler de l'idée que l'humain peut voler à la force de ses muscles. Alors, c'est une problématique qui remonte à la nuit des temps. Tout le monde connaît la mythologie grecque et puis Icare qui a tenté de s'approcher du soleil avec ses ailes faites de plumes. Donc, ça symbolisait le désir pour l'homme d'aller toujours plus loin, voilà, tout ça. Alors ça a quand même évolué parce que là c'était la mythologie, c'était l'histoire et puis en avançant dans le temps on arrive au Moyen-Âge et puis y a les premières réflexions sur justement c'est de la recherche hein, l'ornithoptère, l'idée c'est de construire, donc c'était Architas de Tarente qui a construit une colombe mécanique. L'objectif c'était par la force simplement mécanique de réussir à faire voler le plus lourd que l'air. Non, c'est pas léger, c'est lourd. Et alors si on évolue, alors là c'était plus compliqué au fil du temps, là, il est arrivé à la Renaissance, on connaît tous Léonard de Vinci, et puis si vous êtes un petit peu intéressé à ces travaux plus scientifiques plutôt qu'artistiques, vous êtes peut-être tombé sur ces croquis qui décrivaient d'abord le vol des oiseaux, donc c'était la mécanique des ailes des animaux, et puis petit à petit il a mécanisé ça, et puis il en est arrivé à imaginer une machine à voler. Alors, il a jamais été construite, elle est restée à l'état de croquis, mais finalement, plus tard, des gens ont tenté de la construire et on a remarqué qu'elle pesait quand même 300 kilos et que ça allait être vraiment très très dur à faire voler. Mais plus récemment, avec les nouveaux matériaux qui sont arrivés, par exemple Yves Rousseau, qui est un homme qui depuis, entre 95 et puis 2006, il a travaillé sur la même question, le vol battu musculaire. L'idée, c'est de réussir à faire voler un engin simplement à la force des bras. La dernière exploit qu'il a obtenu, c'était au bout de son 212e tentative, il a réussi à voler 64 mètres. Voilà, c'était formidable, tout le monde était content. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que plus récemment, il y a eu deux petites histoires qui sont apparues sur Internet. Et alors là, on se rend compte que le réseau Internet, on dit que ça permet de transmettre des informations, que ça renouvelle la manière d'échanger entre les hommes. On y retrouve quand même les vieux rêves. Icare est encore présent. Et alors il y a deux histoires qui sont arrivées fait cet été. La première, c'est des jeunes étudiants de l'université de Leicester qui ont travaillé en fait à l'étude de la cape de Batman. Ils se sont demandé est-ce que Batman peut voler avec sa cape, et en fait non. Alors maintenant c'est assuré, hein. Bien, l'envergure est trop petite, c'est-à-dire qu'elle fait que 4,7 mètres carrés, et clairement il se cracherait violemment en arrivant en bas. Alors il a beau être un super-homme ou je ne sais quoi, ben en fait non, sa cape elle permet pas de voler. Et l'autre petite anecdote assez amusante, c'est, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est Jarno Smith. Il a publié, donc c'est un ingénieur néerlandais qui prétendait, je dis prétendait parce que vous verrez par la suite que finalement il n'était pas tant ça que ça ingénieur. Il prétendait travailler pour Philips notamment, et il avait posté une vidéo assez impressionnante où il prétendait, donc sur la vidéo on le voyait voler, et donc il avait des grandes ailes, mais finalement pas si grandes que ça. Et il expliquait que pourquoi il avait réussi à voler, c'est qu'il avait associé, donc ça devait être un smartphone Android qui contrôlait des petits moteurs pour démultiplier la force de ses bras pour faire voler son mécanisme ailé. Alors il disait qu'il avait mis tous les buzzwords, comme on dit, les mots à la mode. Là, il avait utilisé l'accéléromètre d'une Wii connectée à son Android pour faire marcher ses petits moteurs. Bon, alors finalement, ça va être vite. Alors, faut avouer qu'en une seule journée, le web a été couvert de cette vidéo. Tout le monde s'est retrouvé à regarder cette vidéo. Tout le monde s'est dit, ça y est, enfin, Icar existe, youpi. Ça dansait dans tous les sens, puis en fait non, c'était un gros fake, comme on dit, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très doué en retouche d'image et qui s'était amusé à s'accrocher avec des fils, à faire voler son machin, et puis après à gommer les fils sur la vidéo, voilà. Donc même après des siècles, on a toujours cette croyance entérinée, puis on espère toujours, même à l'époque d'Internet, qu'on va réussir à voler avec nos petits bras, quoi.
Bon, alors ce qui est tout à fait réel et tout à fait crédible, par contre, c'est la réponse de l'énigme mathématique, donc posée par Claire. Alors... peut-être que nos invités ont déjà une idée.
Oui. Alors vas-y, t'écoute.
J'imagine que c'est la trichotomie. Donc au lieu d'en peser 4 par 4 et d'en laisser une de côté, on en pèse 3 contre 3 et on en laisse 3 de côté.
Exactement. Voilà. Donc on va commencer par en peser 6, hein, donc 3 contre 3. Si la balance reste à l'équilibre, ben on sait que la boule la plus lourde est dans les 3 restantes. Et si jamais elle penche d'un côté ou de l'autre, on a aussi identifié les 3 boules dans lesquelles on a la boule la plus lourde. Et ensuite, avec ces 3 boules, ben, on en pèse 2. Si on est à l'équilibre, c'est la troisième qui était la plus lourde. Et si jamais la balance penche d'un côté ou de l'autre, on a trouvé la boule la plus lourde. Voilà pour l'énigme du mois.
Alors Laurent, je crois que tu as gagné en fait un article hein, de Claire dédicacé. Voilà.
Donc... super.
c'est la joie là dans le studio. Bien. Alors on passe simplement à l'agenda local. Donc c'est la rentrée pour tout le monde et notamment la reprise hein, des conférences. Alors pour ceux qui s'intéressent à la science. Donc, les conférences donc des mercredis de la science organisées par l'Université Blaise Pascal reprennent les mercredis. Donc, mercredi 26 septembre, hein, donc après-demain, à 15h30, à l'amphi du pôle physique des CESO, aura lieu une conférence intitulée « Y a-t-il du pétrole en Limagne ?» Voilà, vaste question. Les conférences aussi organisées par le musée Lecoq reprennent. Hein, donc, je vais peut-être pas toutes les citer. Comment les arbres tiennent-ils debout contre vent et gravité? Ça, c'est mardi 25 septembre, demain à 20h30 à la salle Conchon. Et puis, je voudrais quand même signaler un événement. Hein, donc, cours de sciences du 12 au 20 octobre. Alors, cours de sciences, ce sont hein, des débats scientifiques organisés après des courts-métrages. Donc, une manifestation organisée par l'INRA, le musée Lecoq et le conseil général autour de 3 thèmes, à flanc de volcan, au cœur de la mêlée et dessine-moi un mouton. Donc ces débats et ces projections auront lieu toute la semaine. Enfin, pour ceux qui aiment les sciences humaines, les sciences sociales, les conférences organisées par les Amis du Temps des Cerises reprennent elles aussi. Je signale, donc ça a lieu les jeudis hein, et les mercredis pour celles organisées par les Amis de l'Humanité, je signale simplement celle du 27 septembre à 20h, Jaurès et la liberté de la presse, donc conférence de Jacqueline Alouette et de Charles Sylvestre. Quant à nous, nous nous retrouverons donc dans un mois, lundi 22 octobre, avec une émission qui aura pour thème « Le progrès, une idée rétrograde ?» pour l'interrogation. Donc nous poserons la question. Restez donc sur l'antenne de Radio Campus, hein, puisque... Juste après, donc, vous pourrez entendre l'émission Génération Manga. Quant à nous, nous remercions chaleureusement nos invités. Donc, nos deux invités en studio, Laurent Baudou et Claire Bargolinas. Merci beaucoup d'avoir inauguré cette émission avec nous. Et nous remercions aussi les personnes qui ont accepté d'être interviewées sur ce thème « À quoi sert la recherche ?». Donc Jean-Louis Quatrieux, Jean-Marc Laveste, Guillaume Mazot, Olivier Besancenot et André Chassaigne. Restez sur Radio Campus, salut.
Ce sont des jeunes qui écoutent votre radio. Je crois que vraiment on peut y trouver beaucoup de plaisir, beaucoup de passion et avoir le sentiment justement de contribuer à quelque chose, quoi.
Science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligence with its the ability to learn from experience, to plane ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et velo côtelé.